Bonjour Désiré, content de te voir. Je vais enlever mon masque. Voilà, ben je veux remercier en particulier Sandrine, merci pour cette première partie. Tu as dit que tu n'aimais pas être devant, mais qui aime être devant? Et ce qui est important aussi, c'est toute la fraîcheur, tout ce que tu nous as apporté ce matin, c'était vraiment bon. Et puis le groupe de louanges aussi, avec ses beaux chants, vraiment c'était très beau. Alors peut-être que ce matin, comme la sœur a prié, attendez-vous de cette prédication qu'elle vous parle, vous encourage, vous instruise, vous stimule peut-être dans votre foi. Chacune, chacun, nous avons des attentes précises dans cette vie. Nous attendons de la part des autres, de la part des institutions, de la part de Dieu, eh bien, des réponses, non seulement à nos questions, mais aussi à ce que nous attendons dans chacune de nos vies. Hein. Alors, nous avons bien sûr des attentes différentes en fonction de notre culture, notre éducation, mais aussi de notre personnalité, de notre identité spirituelle. Hein, vous savez qu'un chrétien n'aura pas les mêmes attentes, par exemple, qu'un homme du monde. Et je vous propose donc de méditer sur nos attentes à partir de trois textes bibliques, et je le ferai sur deux ou trois prédications, on verra. La seconde aura lieu, pour ceux que ça intéresse, le 12-9-2021. Voilà. Alors aujourd'hui, j'aimerais réfléchir avec vous sur le court mais très instructif récit biblique d'Abel et Caïn, qui nous est rapporté par le texte de Genèse 4, versets 1 à 15. Alors, avant de commencer, je n'avais pas pensé le dire, mais c'est vrai que la semaine dernière, Jean-Pierre a parlé d'Abel et Caïn en disant qu'il y avait plein de théories et puis que lui, il ne savait pas trop. Alors c'est vrai que moi j'ai une approche différente de la sienne, mais ça peut être une richesse aussi d'avoir des prédicateurs qui étudient les choses avec des vues différentes. Donc ce matin, moi je vous fais part de ce que j'ai lu, de mes recherches, de mes méditations, de presque des mois de réflexion sur ce texte. Alors c'est peut-être des choses qui vous conviendront pas, mais c'est bien qu'on puisse aussi à un moment en parler. Donc je vous propose de poser le décor en rappelant brièvement le contexte de ce récit. Eh bien, Adam et Ève, le couple originel et emblématique, est chassé du jardin d'Éden après leur désobéissance. Dieu ferme la place en plaçant à l'entrée du jardin des chérubins armés d'épées flamboyantes pour leur barrer le chemin d'un éventuel retour. Voilà, ils n'ont plus le droit de revenir en arrière. C'est donc là, au pied du jardin d'Éden, que commence le récit de Genèse 14, que maintenant je vais vous lire. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit « Avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrant à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas du tout sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il si sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. » Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?»« Je n'en sais rien, » répondit-il. « Suis-je le gardien de mon frère ? » ?»« Qu'as-tu fait ?» J'entends le son de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol, qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. Tiens, dit à l'Éternel, mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrai me cacher devant toi. Je serai errant et fugitif sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel lui dit, eh bien, si on tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Le texte commence par « L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. » Frères, sœurs, je n'étais bien sûr pas là le jour où ça s'est passé. Mais je peux imaginer ce que fut cet instant, un instant émouvant, un moment de surprise et de joie intense. Ève, pour la première fois, donnait la vie. Pour la première fois, selon le plan de Dieu, un être humain sortait des entrailles d'une femme. Quelle émotion ça devait être ! Ça a dû être quelque chose d'extraordinaire. Alors, quelle était l'attente de Ève ? Moi, j'ai vu une double attente. La première attente, c'est, vous savez, avant de la chasser du jardin d'Éden, l'Éternel avait dit à Ève, Genèse 3,16, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. » Frères, sœurs, Ève est bien face à une épreuve. Quand mon épouse Wardia, par exemple, est devenue enceinte, j'ai pu éprouver vraiment et apprécier le courage qu'il faut pour porter un enfant dans son ventre pendant 9 mois. Moi, je n'aurais pas été capable de le faire. Ah, déjà, je ne pouvais pas le faire, alors c'était encore mieux. Les accouchements ont été de terribles épreuves. Alicia, notre première fille, est née avec le cordon autour du cou. Elle était légèrement bleue. Mais quelle peur j'ai eue ! Moi, je travaillais avec des enfants handicapés. C'était une horreur. Et Solène, notre dernière, est née prématurément, car il a fallu accoucher Wardia en urgence, parce qu'elle risquait, soit elle, soit l'enfant, de mourir. Ces moments qui devraient n'être que joie et bonheur sont aussi des moments intenses de combat dans la prière. Nous prenons conscience de notre petitesse, que nous n'avons aucun pouvoir, aucune maîtrise sur les événements quotidiens de notre vie. Combien de fois, alors Sandrine, combien de fois ai-je pleuré en demandant à Dieu, « Seigneur, sois notre aide et notre secours. Viens, Seigneur, ne nous abandonne pas. » Pendant ces 9 mois de grossesse, Ève a pu prendre conscience de la place importante que prend Dieu dans tous les événements de notre vie. Ève s'est attendue à Dieu, elle n'a pas du tout été déçue. Voilà pourquoi, pleine de reconnaissance, elle peut s'écrier, Genèse 4.1, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Frères, sœurs, avons-nous cette belle expression de reconnaissance à Dieu dans tout ce que nous faisons en disant « Sans le Seigneur, j'y arriverai pas. » La seconde attente d'Ève, vous le savez, lorsqu'on attend un enfant, surtout le premier, on se projette, on l'imagine, on est impatient de pouvoir le prendre dans ses bras, on a une imagination cérébrale de se dire comment il sera, quelle tête il aura. Avant d'être chassée du jardin d'Éden, Ève a entendu clairement cette parole prophétique de Dieu, Genèse 3,14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. » Alors, dans la version originale de la Bible, Ève dit précisément ceci, Genèse 4, verset 1. « J'ai créé un homme Yahweh. » Voilà, il n'en dit pas plus, hein. C'est marqué comme ça. « J'ai créé un homme Yahweh. » Pour certains exégètes, la traduction est « J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. » C'est ce qu'on a vu. et c'est ce que la plupart des Bibles reprennent. Mais pour d'autres théologiens, comme Brommer, par exemple, livre d'Alfred Kuhn, Encyclopédie des difficultés bibliques, édition Emmaüs, il faudrait plutôt traduire par « J'ai créé un homme, le Yahweh sauveur ». Pour Brommer, Ève, la mère des vivants, a toujours en mémoire la parole de la promesse de Dieu lancée au serpent. Ève, en tant que mère, voit dans son premier-né la semence qui doit écraser la tête du serpent. Aussi accueille-t-elle la venue de Caïn comme celle du sauveur Yahweh. En attendant Caïn, elle attend le sauveur de l'humanité. Ça a du sens. Il s'agit bien sûr d'une grave erreur d'interprétation prophétique. Alors bien évidemment, c'est plus facile aujourd'hui pour nous de comprendre que cette parole hautement prophétique de Dieu ne s'adressait pas à Caïn, mais s'adressait à Jésus. Jésus né de Marie, elle-même descendante d'Ève, Jésus qui à la croix nous a libérés du péché et de l'esclavage de Satan, selon ce qui est écrit en Colossiens 2, 14 et 15. Ce texte a un rapport avec Genèse 3. Jésus a effacé l'acte aux mille articles qui nous accusaient, car il mentionnait toutes nos transgressions de la loi de Dieu. Il l'a annulé et il l'a cloué sur la croix. Il l'a démasqué et puis désarmé les autorités et les dominations de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal à la croix. Frères, sœurs, Satan, le serpent ancien, a eu la tête écrasée à la croix par la mort de Jésus. Et nous qui sommes en Jésus ressuscité, nous sommes la descendance d'Ève, sauvée, délivrée selon la parole prophétique de Dieu. Amen ? On est d'accord ? Cette mauvaise interprétation de la prophétie divine doit nous interpeller chacun, chacune, et nous rappeler les paroles de Jésus concernant son retour, et donc l'attente que nous avons de son retour. Matthieu 24, verset 23. Souvenez-vous de ce qui est marqué. Si quelqu'un vous dit alors, si quelqu'un vous dit alors, ça peut être moi, ça peut être un pasteur, ça peut être une église, ça peut être des chrétiens. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement de Jésus, le Fils de l'homme. Voilà. Tout le monde le verra et il viendra dans le ciel. Dans son attente passionnée d'un premier enfant, et on la comprend, Ève a très certainement, et de manière tout à fait inconsciente, joué un rôle important dans le fratricide entre Abel et Caïn qui va suivre. Il est probable qu'Ève a eu une attente démesurée pour Caïn, son premier fils qu'elle a attendu comme le Messie. Certainement que, comme tous les parents, il était le plus beau, le plus fort, le plus merveilleux, le plus extraordinaire. Pour toutes celles et ceux qui s'attachent aux détails des textes bibliques, mais aussi à l'importance des noms et de leur signification, je voudrais vous donner trois éléments et qui peuvent peut-être vous parler. Premièrement, la signification des noms. Caïn, c'est l'homme fort, le Yahweh sauveur, le premier-né, le joyau, celui qui est attendu. Abel, c'est le fragile. C'est la nuée, la vapeur, le second, celui qui ne compte pas. Voilà, c'est le sens du nom. Et puis, les annonces de naissance qui sont complètement disproportionnées. Genèse 4.1. Ève donna naissance à Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme, Yahweh. Alors que pour Abel, pas un mot de la part d'Ève. Mais cette seule annonce lapidaire, elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Plus court, on ne fait pas. Plus anonyme, ça n'existe pas. Et puis les métiers. Caïn devint cultivateur. C'est un travail pour homme fort, exigeant. Il faut labourer une terre hostile, une terre maudite. Pour Abel, lui devint berger. c'est-à-dire un travail de gardiennage d'animaux, de relations avec les bêtes. Voilà. C'est toute la différence entre les deux frères. Humainement, maternellement, ces deux frères n'ont sûrement pas reçu le même accueil, le même regard, la même intention, et la même attention, pardon. Pour Dieu, Abel et Caïn ont exactement la même valeur. Il les aime pareillement, car Dieu, lui, ne fait aucune différence, aucune acception de personne. Il ne va pas dire que je préfère Wardia plutôt que Bernadette. Acte 10, 34, Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint, lui est agréable. » Alors, c'est vrai qu'on n'est pas toujours juste, nous, dans nos attentes et dans nos relations. Et si Ève a très certainement eu un regard plus favorable pour Caïn, le premier, ça ne peut pas être le cas de Dieu. Dieu, il n'a pas agi comme ça. Il faudra donc chercher ailleurs sa décision de choisir l'offrande d'Abel plutôt que celle de Caïn. Alors, l'attente de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend? Eh bien, en chassant Adam et Ève du jardin d'Éden, Dieu avait dit, Genèse 3, versets 14 à 19, « Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras la nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front. » Alors, auparavant, dans le jardin d'Éden, tout poussait en abondance. Il suffisait à l'homme de se baisser pour ramasser ou de mettre sur la pointe des pieds pour cueillir les fruits. Depuis sa chute, eh bien, l'homme doit durement travailler pour vivre, et sans les bénédictions de Dieu, eh bien, l'homme n'y arriverait pas. Ce que Dieu attend, c'est de la reconnaissance. Reconnaissance pour qui il est. C'est lui le maître, c'est lui le seigneur de l'univers. Reconnaissance pour ce qu'il donne, pour ses bénédictions. Alors Abel et Caïn savent pertinemment ce qu'ils doivent tous les deux à Dieu. L'un dans son métier de berger, hein, il a vu ses moutons, et puis l'autre dans celui d'agriculteur, il a vu pousser les légumes. Alors, ils décident chacun d'offrir à Dieu une offrande de reconnaissance, de gratitude, de remerciement. Ce que Dieu attend de chacun d'eux, c'est une offrande généreuse et juste, offerte avec un cœur bien disposé. Une offrande juste et généreuse, c'est une offrande qui honore Dieu. Donc, ce qu'il y a de meilleur, alors ce n'est pas forcément une offrande de très grande valeur, mais plutôt une offrande de qualité. Souvenez-vous de ce que disait Jésus de la pauvre veuve qui avait glissé deux petites pièces dans le tronc du temple. Marc 12, 42. « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait pour vivre. » Dieu attend une offrande qui coûte à celui qui offre. Il attend une offrande vraiment qui sorte du cœur. Ce que Dieu attend aussi de celui qui offre, c'est qu'il le fasse avec un cœur bien disposé. Qu'est-ce que c'est qu'un cœur bien disposé? Eh bien, c'est un cœur qui donne ce qu'il sait juste et le fait avec joie et sans regret. Abel, nous dit le texte biblique, a offert les premiers-nés de son troupeau et les meilleurs morceaux. Caïn, lui, offrit des produits de la terre à l'Éternel. Deux offrandes faites à Dieu de la part de chacun des deux frères et deux réponses divines différentes et opposées. L'Éternel, nous dit le texte, porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, c'est-à-dire sur les deux à la fois, mais pas sur Caïn, pas sur lui et pas sur son offrande. Frères et sœurs, c'est vrai qu'en tant qu'observateur neutre, nous pouvons trouver cette décision pour le moins injuste et incompréhensible. Mais voilà, nous ne sommes pas des observateurs neutres, nous sommes des observateurs spirituels à qui Dieu a donné un peu de discernement, je l'espère, et nous avons une idée précise quand même de ce qui s'est passé. Dieu s'est senti honoré par Abel et son offrande. Abel a présenté à Dieu les bêtes les plus vigoureuses, les premières-nées du troupeau, et sans hésitation offrit à Dieu les meilleurs morceaux, ce qu'il y avait de plus cher. Par contre, Dieu ne s'est pas senti honoré par Caïn, qui lui a offert pêle-mêle des produits de la terre, certainement pas le meilleur de sa récolte. Il a donné parce qu'il fallait donner, probablement pas avec un cœur généreux et reconnaissant. Frères, sœurs, souvenons-nous de ce que disait le sage Salomon, un roi 8:39. « Toi seul, Seigneur, tu connais le cœur de tous les humains. » Moi, je ne les connais pas, je ne sais pas. Mais Dieu, lui, il les connaît. Dieu a vu le cœur d'Abel et son offrande. Et il a vu le cœur de Caïn et son offrande. Une offrande juste et généreuse ne peut pas sortir d'un cœur pingre et mal disposé. Tout comme une offrande méprisable ne peut pas sortir d'un cœur bien disposé. Ce n'est pas possible. Paul, en Galates 6:7, écrit « Attention, hein, ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Chacun récoltera ce qu'il a semé. » Frères, sœurs, avec quel cœur, nous offrons-nous nous-mêmes à Dieu? Avec quel cœur est-ce qu'on s'offre nous-mêmes? Lui offrons-nous le meilleur de nous-mêmes, comme Paul le demande en Romains 6:13, quand il dit « Présentez-vous vous-même à Dieu et placez-vous une fois pour toutes à sa disposition. Offrez-vous entièrement à lui. Consacrez donc vos facultés au service de Dieu et faites de vos membres des instruments de sa volonté. Remettez-les entre ses mains afin qu'ils s'en servent comme d'une arme pour accomplir ses desseins. » Quelle était la juste attente d'Abel? Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 23, verset 35, Jésus qualifie Abel de juste. De juste. C'est-à-dire qu'il connaissait Dieu dans son cœur et qu'il était pur dans sa relation avec lui. Hébreux 11, verset 4, dit que c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Par la foi. Donc si on a la foi, c'est qu'on est chrétien, c'est qu'on connaît Dieu. Manifestement, Abel avait un cœur pour Dieu. Sa place de second, celui qui ne compte pas le rejeter, a peut-être attiré les regards de compassion de Dieu sur lui. Son cœur s'est peut-être ouvert au Dieu qui seul sait aimer et consoler ceux que le monde rejette. Abel n'avait qu'une attente, c'était honorer son Dieu, lui exprimer sa reconnaissance, plaire à celui qui l'a béni de sa présence et a béni son troupeau. Est-ce notre cas? Est-ce notre cas à nous? Est-ce que nous, on est reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'on a? Même le peu qu'on a? L'attente de Caïn, maintenant. Juste ici, c'est vrai, d'après le texte, nous n'avons aucune raison légitime de condamner Caïn, même si nous pouvons avoir quelques suspicions à son égard. En réalité, ce qui va révéler le véritable fond de Caïn, sa véritable nature, eh bien, c'est le jugement de Dieu sur son offrande. Dieu, par son jugement, il va dévoiler le vrai visage de Caïn. Qui il est vraiment? L'épreuve du rejet de l'offrande, du nom de Dieu, va mettre en lumière le Caïn intérieur, ce qui se passe en lui. Frères, sœurs, le juste jugement de Dieu, les épreuves que nous traversons dans cette vie, ne sont-ils pas des révélateurs de ce que nous sommes vraiment? Des gens qui passent des épreuves et qui abandonnent tout, qui se mettent en colère et qui ont une colère qui n'arrive jamais à, de laquelle ils n'arrivent jamais à sortir. Caïn, lui, il ne connaît manifestement pas Dieu, ou il le connaît que de très superficiellement. Pour lui, son offrande vaut bien celle de son frère, c'est la même. À aucun moment, il n'imagine que Dieu peut la rejeter. Peut-être donne-t-il à Dieu par intérêt pour que Dieu continue à bénir ses récoltes, on ne sait pas. Hein. Peut-être donne-t-il pour faire comme son frère, ou parce que c'est bien de le faire, la tradition. Hein. Des fois, nous aussi, on fait des choses par tradition. Mais nous-mêmes, frères et sœurs, nous arrive-t-il de nous mentir en pensant que Dieu ne le verra pas ? Ben, je donne des exemples. Oui, Seigneur, on a chanté ce matin. Quoi qu'il en coûte, Seigneur, je te suivrai. Oui, Seigneur, prends tout. En pensant, oui, d'accord, mais pas trop quand même. Oui, Seigneur, je t'appartiens. Mais j'en garde quand même un peu pour moi, on ne sait jamais. En réalité, Dieu connaît nos vraies difficultés, nos soucis, nos luttes quotidiennes. Mais ce qu'il ne supporte pas, c'est le faux-semblant, l'hypocrisie. Ce que nous sommes vraiment, il le voit et il finit par le dévoiler. Caïn, lui, est dévoilé par Dieu. Il est complètement dévoilé par Dieu. En refusant d'agréer son offrande, Dieu déclenche en lui un véritable tsunami, un tremblement de terre. Non seulement il ne s'y attendait pas, mais il ne le supporte pas. Genèse 4:5. Alors Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. Il semble bien que Caïn ne supporte pas le non, la frustration. Il n'aime pas qu'on le contrarie. Alors ses émotions éclatent tel un volcan et ça vibre. Hein. Il entre dans une grande colère et son corps réagit, son visage devient sombre. Il est humilié, découragé, dégoûté de la vie. Il est jaloux, il entre dans une phase de ressentiment et d'amertume envers son frère. Hein, tout à l'heure, Martine priait pour les familles. Mais regardez ce qui se passe dans les familles. C'est la première famille du monde, quoi. Frères, sœurs, nous-mêmes, comment réagissons-nous lorsque Dieu, par exemple, répond favorablement à la prière d'un frère ou d'une sœur et pas à la nôtre ? Lorsqu'il bénit les autres et qu'il ne bénit pas nous. Frères, sœurs, le nom de Dieu, c'est une réponse et non une sanction. Dieu qui est maître, l'autorité suprême, a le droit d'accepter ou de refuser nos offres et nos demandes. Et est-ce qu'on l'accepte, ça ? Ben, Seigneur, moi j'ai prié pendant 5 ans, mais ça ne vient pas. Pourquoi ? Le Seigneur, il a le droit de dire non. En réalité, Dieu est bon et il est plein de compassion pour ses créatures. C'est vrai qu'il pourrait rejeter Caïn définitivement, sans la moindre explication et possibilité de retour, puisque c'est lui le maître. Je te rejette définitivement. Allez, ciao, au revoir, on ne se voit plus. Mais Dieu, lui, c'est pas comme ça qu'il agit. Il considère que Caïn a échoué dans son offrande, qu'il a perdu une bataille, mais pas la guerre. C'est certes un échec, mais il peut se refaire une santé. Voilà pourquoi Dieu est surpris par l'hyper-réaction négative de Caïn. Et dans Genèse 4:6, il lui dit, mais pourquoi te mets-tu en colère, Caïn ? Et pourquoi ton visage est-il si sombre ? Pourquoi ? Dieu attend manifestement de Caïn une réaction positive, une prise de conscience de son erreur, de qui il est, un retour sur lui-même pour s'interroger sur ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas été, pour comprendre le pourquoi du rejet de son offrande. Pourquoi Dieu a rejeté mon offrande ? Dieu l'encourage à revenir sur le bon chemin de la repentance. Il l'appelle à venir à lui. Il lui tend la main, une main secourable. Genèse 4:7, « Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » C'est un appel touchant, c'est un appel émouvant que Dieu lui lance. Peut-être que ce matin, c'est ce même appel que Dieu lance à quelqu'un dans cette salle. Si tu as le courage de venir ou de revenir à moi, tu relèveras ta vie. Je changerai ton existence et je t'apporterai ce que tu attends. Mais vous le savez, frères et sœurs, Dieu est le Dieu d'amour et de liberté. S'il appelle, eh bien, il n'oblige personne à venir, ni même à le suivre. Rappelez-vous Jésus, hein, il passait et ceux qui voulaient le suivre le suivaient. Non seulement Dieu n'accable pas Caïn, mais il l'avertit des conséquences néfastes de persister dans sa colère, dans son amertume et dans sa frustration. Genèse 4:7. « Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. » Vous savez, frères et sœurs, le péché est comme un animal féroce qui est couché à la porte de nos vies. Tant que la porte est fermée, il ne peut pas entrer et ne peut pas nous faire du mal. Mais si nous lui ouvrons la porte, attention, il entre et nous dévore spirituellement. L'apôtre Pierre, dans le Nouveau Testament, il reprend intégralement cette image. 1 Pierre 5:8, il dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Dieu attendait de Caïn qu'il suive son précieux conseil. Toi, domine sur lui. Pierre, dans son image du lion, avait écrit « Résistez-lui avec une foi ferme. » Frères, sœurs, n'ouvrons aucune porte, nous, chrétiens, au péché. Si nous en ouvrons une, qu'il est bien difficile de la refermer. Mais vous le savez, avec Dieu, rien n'est impossible. Apocalypse 3:7. Écoutez bien ce qui est écrit. « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Seul Jésus est capable de refermer les portes que nous avons ouvertes. Si vous avez ouvert une porte au péché, venez à Jésus qui seul peut la refermer. » Caïn avait toutes les armes en main, toutes les cartes en main plutôt, pour venir à Dieu et changer sa malédiction en bénédiction. Mais voilà, Caïn est sourd à l'appel de Dieu, sourd à ses sages conseils. Il ne veut pas entendre. La colère et l'amertume l'aveuglent. Il est sourd, mais il est aussi aveugle. C'est un homme plein de haine pour son frère, rempli de jalousie, qui s'adresse à Abel. Il n'écoute plus rien, il ne voit plus rien. Genèse 4:8. Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ !» Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. C'est grave. Comme Judas qui a ouvert la porte à Satan et a livré Jésus pour 30 deniers, Caïn est devenu le meurtrier de son frère en écoutant les conseils de Satan. Dans le Nouveau Testament, Jean nous parle de ce fratricide. 1 Jean 3:12 nous dit, « Ne ressemblez pas à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. » Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Caïn était du malin. C'est triste. Cet homme n'attend rien de Dieu. Il n'a même pas la crainte de lui. Quand l'Éternel lui demande, Genèse 4:9, « Où est ton frère Abel ?» Eh bien, Caïn ne craint pas de mentir à Dieu. « J'en sais rien, » répondit-il. « Suis-je le gardien de mon frère ? J'en sais rien. » À aucun moment, Caïn n'est dans le regret, le repentir, la honte de son meurtre. Il est totalement dans le déni, dans le mensonge, dans l'indifférence froide. En posant la question, Dieu attendait, espérait de Caïn qu'il pleure sincèrement, amèrement, qu'il humilie son cœur. Mais Caïn était du malin. Ça me fait penser à certains procès actuels où je vois des gens qui n'ont aucun remords, aucun repentir, enfin, en tout cas extérieur. Être du malin, c'est quoi? Être du malin, c'est persister dans le mal et rejeter la main tendue de Dieu, une main que Dieu tend désespérément. Il y a une locution latine qui dit « errare humanum est, perseverare diabolicum ». On peut faire des erreurs, on peut pécher, on peut se tromper, mais persévérer dans ses erreurs, dans ses péchés, dans cette voie, ben ça vient du diable. Alors le Dieu de justice et de vérité met Caïn face à ses responsabilités. Il va lui parler. Genèse 4:10. « Qu'as-tu fait ? J'entends le son de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es chassé et maudit loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. » Et mis face à ses responsabilités, eh bien, Caïn ne pleure toujours pas sur son acte. Il ne pleure pas sur son frère, mais il pleure sur qui ? Sur lui-même. Il s'apitoie sur son sort, à lui. Genèse 4,13, Caïn dit à l'Éternel, « Oh, mon châtiment est trop lourd à porter. » C'est hallucinant, quoi, quand même. Je viens de tuer mon frère, et je dis à Dieu, « T'as vu ce que je vis ?» Caïn ne dit même pas à Dieu, « Oui, ma punition est juste, Seigneur, car c'est vrai, j'ai quand même tué mon frère. » Décidément, Caïn est vraiment un égocentriste qui ne vit que pour lui-même. Mais Dieu, lui, il est amour. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qu'il faut retenir aussi. C'est que Dieu est amour. Dieu aurait pu dire à Caïn, « Caïn, ton châtiment, c'est déjà une grâce. Plains-toi, car je ne te condamne pas à mort. » Il aurait pu le tuer. Eh bien non, Dieu entend la requête égoïste de Caïn. Et dans son amour sans mesure, il accepte même d'alléger sa peine. Genèse 4,15, « L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue pas. » Voilà, je ne veux pas que tu meures. Frère, sœur, Caïn n'a eu d'égard ni pour son frère, ni pour Dieu. Et pourtant, Dieu a pris soin de lui, jusqu'au bout. Et moi, je vous invite à méditer sur cette phrase de Paul à Timothée, 2 Timothée 2,13, « Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. Dieu ne nous abandonnera jamais. » Jamais. Amen. Frères et sœurs, je vais conclure l'histoire d'Abel et Caïn en 2 phrases. La bonne attente, c'est de s'attendre à Dieu. La mauvaise attente, c'est de ne pas s'attendre à Dieu. Et je vais terminer par ces quelques versets du psaume 130, versets 5 et 6. « Moi, je m'attends à l'Éternel. Oui, je m'attends à lui, de tout mon être. J'ai foi en sa parole. Je guette le Seigneur, bien plus que les guetteurs n'attendent le matin. Oui, plus que les guetteurs n'attendent le matin. » Amen. Je vais prier. Oula. Seigneur, je te remercie vraiment pour ce passage que tu nous as encore montré ce matin. Et aide-nous, Seigneur, à ressembler à Abel. Aide-nous, Seigneur, à avoir ce cœur bien disposé, ce cœur juste, ce cœur généreux qui se tourne vers toi. Et Seigneur, si nous passons par cette situation de Caïn, aide-nous, Seigneur, à sortir de cette porte ouverte. Aide-nous à ne pas persévérer dans notre erreur. Aide-nous à revenir vers toi, Seigneur, qui seul est fidèle et qui seul peut nous sortir de cette situation. Et Seigneur, je te remets notre assemblée pour que vraiment tu la bénisses. Et merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ton aide et ton secours. Gloire à toi, Seigneur. Amen.